Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, où aujourd'hui on s'est dit que décidément l'avenir était trop morose et donc on va faire une émission consacrée au chant paillard.
Donc
Charles va vous interpréter le curé de Tacamaré.
Le curé de Camaré, qui est un vieux classique des matchs de rugby.
Avec Jeeves en Jeeves ténor.
En ténor, oui, parce que c'est le ténor des... Vous savez, les Beagles, c'est le ténor des chiens, ils ont une très belle voix. Mais à mon avis, il n'est pas en forme pour chanter.
Non, il n'est pas très en forme aujourd'hui. Bon, blague à part, on a décidé aujourd'hui de consacrer une émission sur ce qu'on appelle les libertés. Et en se consacrant sur la partie atteinte à nos libertés, parce qu'on voit se profiler tout un tas de phénomènes qui semblent être des atteintes à nos droits constitutionnels, à nos droits aussi donc monétaires à la fin de la journée. Et on va commencer pour en parler justement. J'aimerais revenir sur cette atteinte justement à la monnaie qui a été la plus récente. Et ce qu'on voit se profiler aussi, leur euro numérique
qui va être une abomination.
Alors, tu as souvent parlé de ce que représentait l'atteinte à l'épargne qui avait été mise en place par M. Draghi, c'est-à-dire qu'à partir de 2008, le fait d'avoir sacrifié les épargnants avec ces taux d'intérêt zéro ont été d'une certaine manière constitutionnellement une atteinte à votre épargne.
Donc, à votre droit de propriété.
Bien évidemment, à votre droit de propriété, qui est un droit fondamental, que l'on rappelle, est un droit naturel pour nous autres libéraux.
Et dans la Constitution.
Bien sûr,
bien évidemment. Le droit de propriété est un droit qui est dans la Constitution.
Le droit de propriété, j'ai re-regardé hier, le droit de propriété, il est consacré, évidemment, je ne retrouve plus ma fiche, mais bon, bref, je vous le retrouverai. Toujours est-il, reviens sur justement pourquoi c'est une atteinte au droit de propriété, cette atteinte à l'épargne.
Vous savez, je vous ai souvent dit que dans le fond, ce qui s'était passé, la raison pour laquelle on a eu d'un seul coup une croissance économique à partir du 17e, qui avait peut-être commencé un petit peu avant, mais enfin, c'est devenu très net à ce moment-là, c'est parce qu'on a trouvé qu'on pouvait transformer de l'épargne en une augmentation du stock de capital avec lequel travaille l'homme. Alors, je m'explique. Vous savez, c'est l'histoire de Robinson Crusoe qui arrive dans son île. Et la première des choses qu'il essaye de se faire, c'est de se faire des outils. Mmh. Parce qu'à partir du moment où il a des outils, il peut faire des tas d'amélioration de son environnement, s'il a une hache, une scie, ou j'en sais rien, mais il n'arriverait pas à le faire, mais enfin. Et donc, tu peux assez facilement te dire que la productivité d'un homme, c'est-à-dire sa capacité à vivre honorablement, est véritablement en fonction du nombre d'outils qu'il a à sa disposition. Bon. À partir du XVIIe siècle, on a trouvé que... Donc la plupart des gens épargnaient dans le temps, non pas pour avoir plus d'outils, parce que à l'époque le nombre d'outils n'augmentait pas. Tu vois, c'était, il n'y avait pas de progrès technique, donc mais ils mettaient de l'argent de côté pour le jour où ils seraient plus capables de servir des outils, où ils seraient à la retraite en quelque sorte. Donc l'épargne, c'était une consommation différée et qui passait de génération en génération. Tu t'embauchais un petit jeune qui bossait pour toi et puis tu le payais. Et ça te permettait de continuer à vivre. Donc l'épargne, c'était vraiment quelque chose qui servait à la fin de la vie. Mmh. Ou pour les accidents, s'ils tombaient malades, etc. Et puis, ils sont arrivés, ces gens, à la... Ça a commencé sans doute avec les moines au XIIe siècle, mais enfin, c'est devenu tout à fait patent après. Vers 17 ans, si tu fais une invention, comme par exemple la machine à vapeur, qui a besoin de charbon, à ce moment-là, la capacité musculaire de l'homme a été multipliée par un facteur de 100 à 1000 à 10 000. C'est-à-dire que si tu voulais aller du point A au point B, autrefois ou tu courais ou tu marchais ou tu avais un cheval, mais là, maintenant tu as eu le train, quoi. Puis tu pouvais le transporter. Donc c'est une espèce de bouleversement, une révolution. Et à ce moment-là, les gens ont dit, votre épargne, à la place de la garder pour votre...
Pour votre retraite,
pour votre vieillesse, vous allez me la filer, je vais bâtir un chemin de fer, vous serez peut-être actionnaire dans le chemin de fer, vous me prêterez de l'argent. Et ensuite, ce chemin de fer, il va nous permettre à tous de devenir beaucoup plus riches. Et à ce moment-là, comme vous serez actionnaire dans le chemin de fer, vous n'aurez aucun problème pour prendre votre retraite. Donc,
ça a été l'espèce de croissance multiplicatrice qu'il y a eu au 19e.
À partir du 17e, c'est la révolution industrielle. Et donc, il s'est passé un phénomène absolument extraordinaire, où on s'est mis à inventer. Mmh. Et le financement de cette invention était fait par l'épargne des gens qui autrefois étaient consacrés à leur vieillesse, mais ils se disent, dans le fond, je suis un peu couillon, plutôt que d'avoir des pièces d'or, je peux peut-être avoir des actions du chemin de fer local. Quoi, tu vois, donc. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait une épargne d'un côté, il fallait que de l'autre côté, il y ait une invention qui soit vraiment, qui change la vie, et il fallait qu'au milieu, il y ait un gars qui soit le financier, et qui a tapé aux portes des épargnants en leur disant, dites les gars, plutôt que de vous rester avec vos pièces d'or là, vous pouvez me les filer. Mm-hmm. Donc, j'établis une société, vous êtes actionnaire, il faut donc qu'il y ait droit de propriété.
Évidemment. De toute façon, c'est toute l'histoire de Hernando de Soto aussi.
L'action est à toi, si l'État peut te la piquer, s'il peut nationaliser le chemin de fer avant que tu aies eu le temps de avant que tu aies pris ta retraite ou n'importe quoi, tu te retrouves complètement couillonné. Il y a l'autre qui ronfle. C'est désagréable d'avoir, quand vous parlez, un type qui se met à ronfler immédiatement. Ouais. Quoi. Je trouve que c'est vexant.
Et
quoi.
C'est toi qui l'as endormi. Hein.
Exactement. C'est une vieille histoire, on vous la racontera un jour. Donc, il y a eu cette transformation extraordinaire. Donc, vous avez besoin d'une épargne établie qui est parfaitement qui est possédée par des individus. Vous avez besoin d'un financier qui... BDM fait un travail de médiation de cette épargne vers l'investisseur, vers l'inventeur, et puis vous avez l'invention. Bon. Et donc, ça a été possible en Angleterre parce que d'un seul coup, il y a eu une espèce de sanctification du droit de propriété qui a été fait où on ne pouvait pas te le piquer. Parce que la façon dont ça se passe dans la plupart des pays, c'est que vous avez un gars qui commence à bâtir un moulin ou n'importe quoi, dès qu'il est fini...
On nationalise.
Ou il y a le chef local qui vient le piquer pour lui, quoi.
J'ai retrouvé ce que je te disais tout à l'heure, le droit de propriété n'est pas consacré dans la Constitution à proprement parler. On rappellera que pour nous autres libéraux, c'est un droit naturel. Donc, par droit naturel, on entend qu'il naît avec l'homme et il meurt.
On ne me l'a pas accordé.
Dit que c'est une tautologie, parce que quelque part, le droit naturel, quand on dit on ne me l'a pas accordé, n'existe que quand justement le droit positif revient dessus et l'accorde. Donc, en vérité.
Il ne l'accorde pas. Il le confirme.
Il le confirme. Mais toujours est-il que, en tout cas, le Conseil constitutionnel a décidé par une décision du 16 janvier 1982 qu'une loi qui enlèverait le droit de posséder leur logement d'individu, par exemple, serait inconstitutionnelle, consacrant par là le fait que dans la Constitution...
Je crois que c'est dans le préambule à la Constitution.
Non, il n'était pas considéré comme... C'est-à-dire que c'était... le faisceau d'indices qui disait un droit de propriété dans le préambule de 46, on dit, ça donne l'idée, mais ça n'a pas été consacré en droit avant cette décision du Conseil constitutionnel.
Parce que dans la Constitution américaine, le droit de propriété est cité plus de 30 fois.
Oui.
Le droit qui est le plus cité.
Nous, c'est cité, mais si tu veux, c'est beaucoup moins cité, par exemple, que la dignité de la personne.
Donc, ce droit de propriété. Et ce droit de propriété, c'est ce qui donne... Quand tu réfléchis, prenons mon exemple du gars avec ses petites pièces d'or, qui lui donne l'indépendance et la prospérité dans sa retraite. Parce que bon, ces petites pièces d'or, il les a, mais en même temps, ça peut être volé. Alors que les actions, on ne peut pas te les voler. Quoi. Et donc, ça a été un bouleversement absolument extraordinaire. Et il y a eu un livre tout à fait étonnant que je ne saurais trop recommander de vous lire, mais qui avait été écrit par un homme qui s'appelait Hernando de Soto.
Voilà, c'est ce que je citais un grand
économiste, je crois qu'il était péruvien, qui avait écrit un livre il y a à peu près une vingtaine d'années. Pourquoi le capitalisme réussit-il dans l'Ouest et nulle part ailleurs? Ce qui était vrai à l'époque, ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui. Eh bien, il disait, c'est simplement parce que il avait étudié l'Égypte, le Pérou, Cuba, je crois, ou des îles, quatre pays. Et en Asie aussi, et il était arrivé à la conclusion que ce qui faisait la différence, c'était justement ce droit de propriété, parce que si vous déteniez votre maison avec un titre, dans le cadre d'un cadastre qui est établi, vous pouviez en faire plein de choses de votre maison. Vous pouviez d'abord habiter dedans, vous pouviez la louer, vous pouviez la louer en partie, vous pouviez vendre votre maison une fois que vous serez mort, c'est-à-dire... Vous pouviez la découper en morceaux et la vendre en actions à des gens qui voulaient une partie de votre maison. Donc, dès le moment où tu as un vrai droit de propriété, il est assez facile à monétiser. Il y a des gens qui peuvent l'acheter tout en partie, en une propriété.
Tu peux l'hypothéquer.
Tu peux prendre un levier dessus. À partir du moment où tu as un droit de propriété, c'est extraordinairement facile de trouver du capital. Bah, tu as ta maison, bah, tu empruntes sur ta maison et tu lances ton affaire. Et c'est ce que disait Hernando de Soto. Et il avait fait le calcul de la valeur du capital qui existait dans des pays comme l'Égypte, etc., où il n'y a pas de droit de propriété vraiment, où il n'y a pas de cadastre. Et il disait, si les types pouvaient prouver le fait qu'ils possèdent la maison dans laquelle ils vivent, légalement, ils n'auraient aucun problème à avoir un développement. Donc, ce qui empêche le développement, c'est l'absence du droit de propriété.
Et alors, est-ce que, avec ce qui s'est passé depuis quelques années, avec la modélisation justement des taux d'intérêt bas, et une augmentation des prix du capital immobilier factice, puisque tu dis toujours que c'est un enrichissement sans cause, une façon d'appauvrir les Français, parce qu'aujourd'hui...
Ça n'a pas été un appauvrissement vraiment, mais ça a été un transfert de pouvoir d'achat gigantesque des pauvres qui avaient épargné, l'épargne française est très importante, hein, qui avaient épargné, vers ceux qui avaient déjà du capital.
Voilà, parce que moi, ce dont j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un boomer qui avait acheté dans les années 70 un lotissement à 200 000 euros va se retrouver avec une valorisation, ou un appartement à Paris, on va dire 800 000 francs. Cet appartement va être aujourd'hui valorisé à 2 millions d'euros, et pour autant, les jeunes qui arrivent sur le marché, eux, ne trouvent pas parce que les prix sont grotesques par rapport à nos salaires.
Ils peuvent pas, et donc...
Donc ça a été en fait une façon d'enrichir les boomers aux dépens des jeunes classes.
C'est ça, ça a été ce que j'appelle un enrichissement sans cause. Et il n'y a pas eu de création... Le stock de capital dont je te parlais tout à l'heure, pour être plus productif, n'a pas augmenté. Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui veut travailler à Paris, qui a une famille, ben, il peut travailler à Paris, mais sa famille, il va la coller à Orléans.
Oui, mais ça, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que toi, quand tu étais jeune cadre, tu venais de rentrer à la Banque de Suez, on était à l'époque deux enfants, maman et toi, tu pouvais avoir un appartement dans Paris intramuros, qui est assez de chambres pour, voilà, et faire vivre maman et toi. Aujourd'hui, c'est impossible,
ben voilà,
avec un salaire de jeune cadre.
Absolument, j'y arriverai sûrement pas. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que la façon dont un système économique fonctionne, c'est s'il y a une transformation harmonieuse de l'épargne de précaution en épargne d'investissement. Il y a comme tu changes la nature de l'épargne. Donc, tu vois. Donc, l'épargne de précaution, mettons que c'était de l'or, et puis tu la transformes en actions. Et puis, donc c'est un véritable miracle qui se passe à ce moment-là. Mais alors, il y a deux choses qui peuvent se passer, qu'on voit un peu partout. Et donc, avant que j'en arrive aux deux choses qui peuvent se passer, c'est que ce droit de propriété est donc absolument inattaquable. Il ne doit pas être attaqué, plus exactement. Dans les trois fonctions, c'est-à-dire dans l'épargne de précaution, tu n'as pas le droit de voler l'épargne de précaution des gens. Et donc, il doit y avoir une rémunération convenable. Donc, les taux d'intérêt à zéro, ça n'est que rien d'autre que du vol qui bénéficie au plus gros emprunteur, qui est l'État. Il ne faut pas que les financiers au milieu soient mis dans une position de pouvoir prendre des positions spéculatives qui spolient soit les pauvres, soit les entrepreneurs, là, c'est, tu vois, ça, c'est aussi, donc, et il faut Que les entrepreneurs ne se fassent pas face voler le produit de leur travail et de leur prise de risque par l'État ou par quelqu'un d'autre. Donc, si tu touches au droit de propriété dans aucune de ces trois ou quatre fonctions, eh bien, la croissance va s'arrêter. C'est pas possible autrement, puisque à ce moment-là, ceux qui vont toucher les fruits des investissements, c'est ceux qui n'ont pas pris de risque. Donc ceux qui prennent des risques, ils vont arrêter d'en prendre, ils vont aller en prendre ailleurs. Et donc c'est cette espèce de miracle qui s'est passé pendant un siècle ou un siècle et demi, où on a trouvé un système harmonieux basé sur le droit de propriété, et une intermédiation du risque qui était faite par une classe financière au milieu, dans le fond pour donner du capital à ceux qui allaient prendre des risques, et plus de rentabilité à ceux qui ne voulaient pas prendre de risques. C'était quand même avoué que c'est un miracle, c'était la multiplication des pains du Christ, ce truc. Et c'est ce à quoi, avec ma fille, on est allé dans une réunion qui était du côté du Puy, par là-bas, il y a la
logique. Entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, en gros.
Entre Gros, voilà
vers le
Puy-en-Velay. Et c'est la base du capitalisme, et j'ai été encore une fois surpris par l'extraordinaire haine que le mot capitalisme génère dans une assemblée. J'ai été très surpris, donc. Ce qu'il faut voir, c'est que vous ne pouvez pas avoir cette transformation du plomb, l'épargne des petites gens là, en or, les nouvelles sociétés, s'il n'y a pas un respect total du droit de propriété du début à la fin. Et si vous commencez le socialisme, et bien à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le socialisme? C'est que vous spoliez l'épargne des petits gens, vous leur dites qu'ils auront une retraite, ils n'en auront pas, et vous allez faire des moulins à vent et des miroirs magiques, des trucs qui ne marchent pas.
On en a vu sur le chemin, Dieu sait.
On en a vu, des trucs qui ne marchent pas, parce que ce sera bien vu politiquement. Les gens qui investissent
par 0,1% de la population,
mais qui sont indispensables pour avoir une majorité de gouvernement. Et donc, encore une fois, vous avez cette espèce d'extraordinaire paradoxe, c'est qu'ici, vous n'avez que des gens qui essayent d'avoir une rentabilité du capital investi la plus forte possible, les entrepreneurs. Ici, vous avez des gens, à gauche, là, les rentiers, il y a des gens qui veulent avoir une retraite paisible. Et au milieu, vous avez des gars qui sont prêts à intermédier ce risque, qui est le secteur financier. Tous ces gars-là ne travaillent que pour leurs intérêts propres. Et le résultat est que la vie de tout le monde s'améliore. Mmh. Et si vous dites, attention les gars, il y en a qui profitent trop à gauche, à droite, il y a des super profits ou je ne sais quelle ânerie, le système ne marche plus. Donc c'est un système qui est complètement bâti sur le droit de propriété et sur la liberté de chacun de prendre des décisions qui le concernent. C'est la base du libéralisme, ce truc. Et c'est extraordinaire à quel point c'est impopulaire, alors que ça marche depuis deux siècles à la satisfaction générale.
Alors, je pense qu'une grande partie de l'incompréhension des gens est due au fait qu'on leur explique depuis qu'ils sont tout petits, ce qui est aussi quelque chose qu'on comprend, que l'économie, la richesse en réalité serait un gâteau, et que de sorte qu'il y aurait comme une roue de fromage, un certain nombre de parts.
Il était très bon le fromage d'ailleurs.
Oui, il était très bon. Et que quand on, donc ils se disent, moi, si ma part devient congrue, c'est donc bien que quelqu'un l'a prise. Donc c'est le fameux who took my cheese,
oui.
Où est passé mon fromage, quelqu'un d'autre l'a pris, c'est Bernard Arnault, c'est Jean-Pierre, quelqu'un a pris mon fromage. C'est-à-dire que la notion de croissance,
en fait c'est toujours Rothschild, mais enfin ça, c'est
oui, c'est aussi toujours Rothschild,
c'est bien toujours
sûr.
Rothschild, mais on sait.
La loi de 73,
bien évidemment. La loi de 73, il y a un certain nombre de trucs comme ça qu'il faut dire si on n'est pas sérieux,
oui,
sur
voilà,
la centaine.
Voilà,
hein.
C'est la loi de 73. Globalement, si c'était la CIA aussi, ça...
Oui, mais la CIA est contrôlée par les Rothschild, donc tout va bien.
Oui, tout va
bien. Voilà. On peut réconcilier ces gens, ce genre de différence.
Donc, si tu arrives à comprendre que, en définitive, ce qui a fait que des millions de personnes sont sorties de la misère, se sont mis à manger à leur faim, parce qu'il faut bien voir que quand tu regardes des chiffres du début du 19e, il fallait 7 heures pour gagner littéralement son pain. Aujourd'hui, il nous faut 10 minutes pour gagner...
Pour un kilo de pain, je crois.
Pour un kilo de pain. Enfin, sauf à ma boulangerie, où ils le vendent 7,90 pour les 250 grammes. La dernière fois, j'ai acheté une miche de 500 grammes, elle m'a dit 17 euros, je suis tombée. J'ai dit, moi, heureusement que c'est pas la guerre.
Voilà, on arrête le capitalisme et pan le pain se remet à remonter.
Non, mais tu sais ce qu'ils font, sous prétexte qu'ils te mettent 3 graines de courge ou je sais pas quoi.
Ah oui, ça, je sais pas quoi. Oui, ça, c'est,
et
non,
puis
ça,
ils
c'est...
te disent, ah, c'est un pain spécial. Mais... toi, tu passes en caisse, tu fais pas attention, 17,90. J'étais, bon.
17,90, c'est une. Bon, bref.
Bref, voilà.
Mais donc, tu as tout à fait raison, il y a cette idée-là, mais. Que quelqu'un a, il me l'a pris à moi parce que en trop, parce que lui il en a trop et moi j'en ai pas assez, donc ça, il me l'a volé. Mais alors je voudrais maintenant essayer d'expliquer une fois encore ce qui se passe du côté des entrepreneurs qui sont là, vous savez, à droite là. Je dis à droite parce qu'ils sont à droite du Seigneur. Ils ont pris des risques. Eh bien, il se passe un phénomène très curieux, c'est qu'il y en a à peu près 8 sur 10 qui se pètent la gueule, qui prennent des risques et qui perdent tout le capital qu'on leur avait donné, etc. Et puis, vous en avez à peu près 2 sur 10 qui gardonnent comme des fous. Donc, 80% de la richesse créée en France est créée par 20% des gars. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que 80% de ces 80%, c'est-à-dire, comment ça peut faire 20% de ces 20%, pardon, ce qui fait 4% de la population totale, est responsable donc de 64% de la création de richesse, 8 que multiplie 8. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est distribué selon la loi, que j'ai souvent appelé ici la loi de Pareto. 80% des accidents de la route sont faits par 20% des conducteurs, 80%. Des livres qui sont achetés sont faits par 20% des auteurs, etc.
Et donc, je crois aussi que 80% des déodorants sont portés par 20% de la population. Oui. C'est mon impression des transports en commun. Je tiens à...
tu dois le dire, c'est pas possible.
Et j'aimerais bien que ça se démocratise.
Ça se démocratise. Bon, ça c'est un point plus prosaïque. Mais donc vous avez cette espèce de extraordinaire concentration de la capacité à créer des richesses. Et alors, dans cette réunion où j'ai été, j'ai été surpris de voir que les gens pensaient que la richesse était créée par, dans le fond...
par le travail.
Par le peuple, le travail. Mm. C'est moi qui travaille, monsieur, c'est donc moi qui crée la richesse.
Alors, c'est vrai et c'est pas vrai.
Voilà. Oui, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que dans le rôle de l'entrepreneur... mettons, en Union soviétique, ils avaient plein de gens qui travaillaient. D'ailleurs, ils ne voulaient pas travailler, on les mettait dans des camps. Même s'ils voulaient travailler, d'ailleurs, c'était pour d'autres raisons.
Dans le doute, on vous mettait dans un camp parce que, voilà, vous aviez des lunettes
donc,
et ça va
bien. Donc, il y avait du travail pas cher, là.
Ouais.
Et puis, de l'autre côté, il y avait du capital parce qu'ils piquaient toutes les épargnes des gens. Mmh. Donc logiquement, si tu mets du capital et du travail, tu dois avoir un produit. Tu dois avoir plein de richesses qui est créée. Et ensuite, on le répartit harmonieusement et on est tous au paradis terrestre. Sauf que ça n'a pas marché du tout.
Mais oui, et ça, c'était les grandes théories de Marx. Entre-temps est arrivée l'école autrichienne,
voilà,
qui a dit « mais non, mes petits cocos, c'est pas comme ça que ça se passe ».
Vous avez 3 personnes. Vous avez le travailleur, vous avez le capital et vous avez l'entrepreneur qui assume le risque et qui gère ce risque. Et celui qui crée la richesse... c'est en faisant travailler harmonieusement, c'est l'entrepreneur, en faisant harmonieusement travailler le capital et le travail. C'est pas parce que vous mettez plein de capital et plein de travail que vous allez vous enrichir. Il faut que vous le fassiez à bon escient en fonction des demandes qui sont faites, et ça c'est le rôle de l'entrepreneur. Donc la création de richesse, c'est pas un jeu à 2 personnes, le travailleur et le capitaliste. C'est vous avez le travailleur, le capitaliste, et l'entrepreneur qui est dans le fond l'artiste qui crée de la valeur.
Ça revient aussi à la conception de Piketty, si tu veux, qui n'a pas compris la notion de rentabilité du capital investi.
Non, pas du tout.
Qui s'imagine toujours que si tu rajoutes de capital, tu vas aller vers une croissance infinie, ce qui est complètement con, parce que ça voudrait dire que comme ça, tu arriverais à un PIB qui serait...
Tout le temps. Mais ce que dit Piketty, qui est une ânerie qui m'a toujours stupéfait, c'est qu'il vous dit la rentabilité du capital investi est de, mettons, en moyenne 7%. Il a été chercher des trucs au Moyen-Âge.
Qui n'existait pas, donc on ne sait pas où les a trouvés.
Qui l'a fait à la main, mais enfin ça c'est autre chose. Donc il dit, il appelle ça R. La rentabilité du capital, c'est R. Et puis, 6 ou 7%. Et il dit, comme le PIB croît à 3 ou 4%, ça veut dire que R, qui est plus gros que... le PIB, la croissance du PIB, Les riches vont devenir de plus en plus riches et les pauvres vont devenir de plus en plus pauvres parce que la rentabilité du capital est supérieure à la croissance. Ce qui prouve que c'est un âne. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la rentabilité du capital aujourd'hui, c'est la rentabilité du capital marginal. J'ai souvent cité l'exemple de la boulangerie dans les Pyrénées. Ils gagnaient du 5 ou 6% par an, ce qui était bien. Mais ils s'y mettaient une machine de plus, la machine de plus gagnait zéro.
Oui, parce que c'est pas parce que vous mettez une machine de plus que tout à coup, dans le village, les gens vont manger 2 baguettes par jour. On arrive bien à comprendre qu'on arrive à une exploitation, par exemple, d'une boulangerie où les gens mangent X pains par jour et achètent en temporalité tant
donc
de croissants et tant de pâtisseries.
On gagnait 5% ou 6% de rentabilité. Mais si on mettait une machine de plus ou qu'on faisait un pain de plus, c'était zéro. Oui, donc il faut comparer la rentabilité marginale du capital et la rentabilité et le taux de croissance. C'est-à-dire que cet âne comparait une vitesse à une accélération. Et il arrivait à l'idée que l'accélération étant supérieure à la vitesse, on n'en pouvait pas s'en sortir. Donc il avait écrit ce livre qui s'appelait « Le capital », je ne sais plus quoi.
Le livre de Piketty qui est sorti il y a 10 ans.
Et j'ai commencé à le lire, quelqu'un me l'avait prêté parce que je n'allais pas l'acheter quand même. Et la première page, je me suis arrêté en disant « Mais c'est incroyable, il fait une erreur, si j'avais été professeur, je l'aurais mis zéro et aller bosser. » Donc la plupart des gens, je me suis rendu compte encore une fois ce week-end, ne comprennent pas la notion que ce n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils ont droit à quelque chose.
Oui, mais tu comprends bien que c'est très difficile à entendre, parce que surtout quand tu vas dans un milieu d'agriculteurs où les gens travaillent très dur. Donc si tu veux, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un peu de peut-être de démagogie, enfin de, en tout cas de.
Oui, mais ça veut dire que si continue à penser que il faut que l'agriculteur, comme tout entrepreneur, parce que c'est ce qu'il est, regarde ce qui marche et en fasse plus et fasse moins de ce qui ne marche pas. C'est la base de l'entrepreneuriat, tu sais, bon. Mais si en plus on lui file des subventions pour acheter ce qui ne marche pas, à ce moment-là, il ne peut pas s'en sortir. Donc
oui,
le problème,
si tu veux,
c'est pas... Il faut qu'il y ait un retour d'expérience chez l'agriculteur qui dit, je ne sais pas, la luzerne se vend mieux que le blé. Je vais faire plus de luzerne et je vais faire moins de blé. Mais si on lui subventionne son blé, il va continuer à faire du blé. Et donc le problème qu'on a, c'est qu'on a donc des gens qui ne comprennent pas que l'acte de création est un acte de prise de risque. Et que parce qu'ils travaillent beaucoup, ils ont droit à quelque chose.
Non, mais le vrai problème, papa, c'est que à la source, si on laissait tout ça en libre marché, je pense que n'importe quel paysan serait capable de comprendre sur un cycle du cochon, ça monte, ça descend.
Bien sûr.
Le problème, c'est que l'Union européenne arrive là-dedans, que tout à coup, elle leur dit, les gars, on va vous subventionner, je sais pas, j'ai n'importe quoi, la luzerne, que du coup, bah, ils se disent, puisque je suis subventionné à la luzerne, et pam, on leur tire le tapis sous le pied, une fois qu'ils sont bien lancés dans une exploitation.
J'ai vu ça avec mon cher beau-frère qui n'est plus de ce monde, mais enfin, il y a quelques années, il avait une propriété dans le Gers et on lui avait conseillé, il avait dit, bon, ben, qu'est-ce que je dois faire? On lui avait dit, ben, il faut faire des vaches.
Il était au Crédit Agricole, on lui avait dit au Crédit Agricole, faites de la vache.
On lui avait prêté de l'argent pour faire de la vache, puis après ça, 5 ou 6 ans après, ben, il y avait trop de vaches, par exemple. Et donc, on lui a... On lui a retiré les subventions et on lui a demandé de rembourser le prêt.
Donc lui, il avait ni fait de l'argent sur la vache, et en plus, il devait rembourser un prêt, et il se retrouvait avec des laitières en pays d'Auch.
voilà,
où il n'y a pas des masses de flotte.
Et donc, j'ai aidé un petit peu à sortir du problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, tout part d'une mauvaise connaissance de la réalité. Le travail est indispensable et est noble. Le capital est indispensable et est noble. Et l'action de celui qui fait travailler au mieux le capital et le travail ensemble est indispensable et noble. Mais il n'y a pas de raison objective de penser que c'est pas parce que tu travailles comme une bête que tu dois être payé. Si tu fais un produit qui ne sert à rien, pourquoi tu serais payé pour faire une diligence de dernier cri, alors que maintenant qu'il y a les voitures ou les chemins de fer? Donc tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a aussi, et ça, celui qui est capable de faire la distinction entre les produits qui servent et qui prennent le risque sur lui, c'est l'entrepreneur. Donc les paysans ne peuvent pas à la fois demander leur indépendance et que les autres qui ont réussi soient punis. Parce que ça, c'est tomber dans une erreur intellectuelle qui va les tuer. Et ça me gêne beaucoup de dire ça, mais la première des choses, c'est si vous réclamez votre liberté, parce que ce sujet, c'est la liberté, il faut en assumer les conséquences. Et ce qu'il y a d'odieux aujourd'hui pour la paysannerie, c'est qu'elle n'est pas en mesure de prendre les risques qu'il faut, donc ils en prennent plein la tête. Mais ils peuvent pas changer puisqu'ils sont coincés
avec l'UE.
Avec l'UE, les régulations, etc. Donc on arrive à la conclusion que la première des conditions pour que les paysans redeviennent heureux, c'est qu'il n'y ait plus d'Union européenne et que ce soit. Ils redeviennent libres.
Oui, mais le problème, c'est que du coup, ça entretient un système de dépit. Dans ces cas-là, on cherche toujours l'éternel bouc émissaire qui va être le grand capital, Bernard Arnault. Donc, on se retrouve avec des sortes de litanies des saints qu'on retrouve absolument dans toutes les cases de la population et qui sont envoyées par toujours les mêmes, les Mélenchon, les LFI, les compagnies, qui vont dire si vous n'avez pas, si ça ne fonctionne pas, c'est Bernard Arnault. Et en disant ça, tu n'as rien réglé, tu ne regardes
mais
pas dans la bonne direction.
Non seulement tu as réglé,
mais tu entretiens en plus l'envie.
Entretenir l'envie qui est un truc abominable. Mais aussi, je voudrais dire autre chose dans le domaine des libertés. C'est OK, M. Bernard Arnault a ruiné les paysans français. Je ne sais pas, j'en sais rien, je m'en fous. C'est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc, le paysan français dit on va aller piquer du fric à M. Bernard Arnault. Bon, ça veut dire que c'est une violence faite à la liberté de M. Bernard Arnault.
Non, à son droit de propriété, dont on parlait tantôt.
À son droit. Donc, vous vous imaginez que vous allez augmenter votre liberté en utilisant l'État...
En spoliant la liberté d'autrui.
En utilisant l'État et son monopole de la violence légitime pour essayer d'aller ruiner M. Bernard Arnault. Mais ça veut dire que votre liberté à vous va baisser, puisque vous demandez à l'État de faire baisser la liberté d'un autre. Mais une fois qu'il aura fait baisser la liberté d'un autre...
Il fera baisser la vôtre.
Il fera baisser
la
vôtre
aussi.
Parce
qu'on n'est jamais un petit peu enceinte.
On n'est jamais un petit... C'est ce que j'essayais de dire. On n'est jamais un petit peu enceinte. On n'est jamais à moitié enceinte. Donc, cessez de demander à ce que la liberté des autres soit réduite.
Parce que vous ne conserverez pas la vôtre, le temps
voulu. Parce que vous ne conserverez pas la vôtre. C'est ce que dit un fameux proverbe qui dit « Si l'État peut tout vous donner, il peut tout vous retirer ». Donc le but, c'est pas qu'on aille retirer la fortune de Bernard Arnault, c'est que la vôtre augmente. Donc arrêtez de regarder, moi c'est j'avais des amis de mes parents, je déjeunais un jour chez eux, il y a longtemps, on était à Amiens, et il y avait des cerises qui étaient un truc extraordinaire à Amiens dans les années 50, je vous assure qu'il n'y en avait pas des masses. Et donc on donnait des cerises à chacun des enfants comme ça, puis il y a la mère, il y a un des petits qui était là, un garçon, qui dit « j'en ai pas eu autant que Pierre-Paul ou Jacques qui était là ». Et sa mère a pris le reste de cerise qu'il y avait, lui a donné à celui qui avait le plus, et a dit « ça t'apprendra pour une
parce la que justice l'égalité,
n'est,
l'égalité,
la justice n'est pas de ce monde ». Et elle a pris toutes les cerises, elle l'a donné. Et je me suis dit « voilà comment les enfants ne regardent pas dans l'assiette de ton voisin ». Oh, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent dans l'assiette d'Arnault, qui regardent dans l'assiette, moi personnellement je m'en fous d'Arnault, il a fait du très bon boulot, il a créé des centaines de milliers d'emplois, c'est pas moi qui vais gueuler. Mais par contre, quand le gouvernement fait sauter EDF et perd je sais plus combien, 24, 25 milliards d'euros sur EDF, qui était un truc qui ne pouvait pas perdre d'argent... Pour ceux que ça intéresse, il faut aller voir la petite émission que j'ai faite avec l'ami
Le Bihan. On va en faire une autre très bientôt. On l'enregistre le 15 avec un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Samuel Furfari. Déjà, vous pouvez regarder son livre aux éditions de l'Artilleur, qui est une personne qui a travaillé dans l'énergie à l'Europe pendant 30 ans. Et son livre, j'en suis au premier tiers, est absolument remarquable et qui explique vraiment par le menu comment on se retrouve dans cet état-là. Et lui-même ne le comprenant pas. Voilà. Parce que le départ, c'est de dire avoir l'indépendance énergétique, c'était quand même ce à quoi normalement
c'était de
l'Europe...
La liberté.
C'était évidemment de la liberté.
Donc c'était de la liberté. Donc encore une fois, toutes vos démarches quand vous essayez d'améliorer votre situation, c'est toujours d'essayer d'accroître votre liberté. Plus votre espace de liberté augmente, mieux ça ira.
Alors dis-moi, dans les atteintes aux libertés, beaucoup se font du souci pour ce qui est de l'euro numérique qui arrive. C'est vrai qu'on a deux peurs. Un, de cet euro numérique qui arrive parce qu'on se dit qu'en temps réel, ils seront ce qu'on fait. Deux, s'ils commencent à le faire, ça veut dire que, comme tu disais dans ton article de cette semaine, si tout à coup ils décident que tu as trop mangé de viande cette semaine, hop, on te dit qu'il faut pas que tu prennes du ragoût de sauterelle. Que s'ils trouvent que tu as trop pris l'avion pour aller voir tes petits-enfants aux États-Unis, monsieur Gave, hop, on lui sert le kiki. Il peut plus prendre l'avion, et puis alors là, bonne chance avec la voiture. Et troisième truc, on le disait ce week-end parce que du coup, j'ai conduit pour aller jusqu'à Saint-Étienne en revenant, et il est question qu'il baisse encore la vitesse sur les autoroutes, ce qui fait que si on se retrouve à devoir faire du 100 km/h pour faire 600 km, le temps va être long.
Le temps va être très long. Et donc, vous voyez que toutes les activités qui sont intéressantes...
Qui donnent de la liberté
qui
donnent
de la liberté
à l'humain.
Sont toujours à l'humain. Alors, je vais peut-être faire une petite fresque historique ici, si vous me le permettez, ma chère fille, mais pour expliquer ce qui s'est passé depuis un certain temps. Alors, il faut probablement commencer à la guerre de 14. Vous avez la guerre de 14, qu'est-ce que ça a fait? D'abord... Ça a détruit de façon totale l'épargne des petites gens, tu sais, qui étaient là, puisqu'on est sorti de l'état noir. Et donc, ceux qui avaient acheté des obligations de l'état ou n'importe quoi ont été complètement raclés. Donc, on a déjà une perte de liberté extraordinaire. Deuxièmement, cette guerre a été faite sur la conscription, dans tous les pays, qui était un phénomène assez nouveau. On avait fait ça pendant la guerre de 14, pendant les guerres napoléoniennes et de la Révolution. Mais enfin, on était à peu près les seuls à le faire. Donc, l'État s'est arrogé le droit d'aller chercher vos fils et de les faire tuer. Ce qui est quand même incroyable. Quand tu réfléchis, c'était un truc qui jusqu'à la guerre de la Révolution.
Parce qu'au Moyen-Âge, quand ils faisaient ça, les seigneurs s'aggueulaient sec dans les campagnes.
Ils pouvaient, encore, il y en avait quelques-uns.
Mais tu pouvais lever, pas l'entièreté, tu pouvais enlever que 10%.
Il fallait laisser les paysans, etc. Ouais. Bon, donc déjà, il y a eu une perte de liberté, puis ensuite, après la guerre, il y a eu deux ou trois monnaies qui ont complètement disparu. La monnaie allemande ruinant la bourgeoisie allemande, la monnaie russe, avec bon, ça s'est terminé dans les camps. Donc, une attaque sur la monnaie, déjà, c'était une atteinte aux libertés extraordinaires, parce que tu nationalises le temps. C'est-à-dire que chacun d'entre nous organise son temps comme il le veut, organise sa fin de vie comme il le veut, mais à partir du moment où on te pique tout ton pognon aujourd'hui, ils ont pris mon temps dans le futur, ils l'ont volé. Tu vois, c'est... Bon, ça, c'était la première des trucs. Ensuite, on a la Grande Dépression. Alors là, qui est faite aussi par des bêtises de l'État, on pourra en discuter un jour. Donc la Grande Dépression, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du protectionnisme partout, ils empêchent les gens d'acheter de l'or, plus moyen de se protéger, partout à droite à gauche on commence à nationaliser, et on crée toute une série de trucs qui rendent le citoyen dépendant, au prétexte de le protéger, tu vois, c'est-à-dire que c'est là où commence toute la démagogie. Bon, alors qu'on avait eu des dépressions au 19e, il y avait eu des claques terribles et chacun s'était démerdé, puis on était reparti assez vite. Puis il y a la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, bon, les camps de concentration, les massacres, tout ce que tu veux, et puis l'émergence de ce pouvoir abominable en Union soviétique qui tue des tas de gens. Donc tu vois, ça c'est les trois grandes crises fondatrices de la social-démocratie en quelque sorte. C'est vraiment là où on a perdu plein de liberté. Bon, arrive ensuite, après 1945, la prochaine grande crise, ça a été sans doute le choc pétrolier, rebelote, on t'enlève des tas de liberté, tu peux plus rouler sur les autoroutes à plus de 130, donc tu commences à avoir tes libertés qui sont réduites, tu peux plus chauffer ta maison, puis après ça... Qu'est-ce qu'il y a comme autre grande crise? À ce moment-là, on se retrouve avec, par exemple, le 9-11, tu sais, les tours jumelles qui tombent, qui sont attaquées. Alors là, nos libertés en prennent un coup de terrible. Ah oui.
C'est de ce moment-là où on n'a plus pu prendre un avion sans se mettre tout nu. Hein.
Sans se mettre tout nu, mais d'abord,
quatre fois.
tu peux plus prendre l'avion, t'es vérifié tout le temps.
Et puis surtout, de ce moment-là, la CIA a commencé à aller voir les banques en leur disant à tout moment, on veut savoir les transactions financières.
Il n'y a plus de sécurité bancaire.
Ils disent, on veut un double écran, on a le droit de regarder parce que vous comprenez les tours jumelles.
Voilà, on n'a plus de secret bancaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'État...
Mais l'État américain.
Mais oui, mais ensuite les autres, ils ont dit, mais nous aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'État américain s'est autorisé à aller voir ce qu'il y avait dans mon compte en France.
Mais c'est ce que je te dis, à tout moment.
À tout moment. Et donc, mais c'est inouï, quoi. Donc ça a été passé en 9-11, puis ensuite vous avez eu... on va parler un petit peu aussi, une autre crise qui est arrivée, c'était la grande crise de financière de 2008-2009, allez, rebelote, on imprime un pognon noir pour sauver des gens qui avaient spéculé comme des voleurs, et qui étaient des grands banquiers, etc. Ils auraient dû tous aller en prison, il n'y en a pas un qui est allé en prison. On les a sauvés avec notre argent, en faisant baisser la valeur de notre argent. Et puis ensuite, on a le Covid. Alors là, on nous enferme partout. On nous met... Donc tu vois... C'est ce qu'avait dit un des types d'ailleurs qui travaillait pour Obama, quand il avait dit « You should not waste a good crisis », c'est-à-dire il ne faut pas laisser passer une bonne crise parce que ça permet à l'État d'accroître son poids et de vous mettre de plus en plus sous contrôle. Donc il faut bien se rendre compte que ces crises profitent tellement à l'appareil étatique qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que par hasard, c'est pas eux qui les organiseraient pour se permettre de nous coincer encore plus à chaque fois? Mais quand vous regardez sur un siècle, le mouvement, ça a été une baisse perpétuelle des libertés individuelles et une hausse perpétuelle du rôle de l'État. Et chaque crise est... Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, attention, la prochaine crise, ils vont en profiter pour introduire l'euro numérique. Et l'euro numérique, ça voudra dire qu'à ce moment-là, c'est eux qui décideront si vous avez accès à votre argent ou pas. Déjà, ils vous ont volé votre épargne. Maintenant, ils veulent imposer la façon dont vous avez le droit de dépenser votre revenu.
Et en plus de tout, ils vont aussi, a priori, attenter à la liberté de circulation réguler justement sous prétexte écologique, le fait de prendre des avions, et toujours sous la même notion d'écologie ou de sécurité, de dire, si vous prenez la voiture, en plus, déjà, il y a l'électrique, ça veut dire que dans l'absolu, tu fais 300 km, t'es obligé de t'arrêter pour 2h30, si toutefois tu trouves une borne, parce que si tout le monde a des voitures électriques et qu'il y a 4 bornes, on fait comment? On attend que Jean-Pierre ait fini avant? Enfin, c'est-à-dire que on va revenir au temps des diligences en termes de temps, c'est-à-dire on fait 20 km, on s'arrête à un endroit pour dormir, quoi. Ça fait pour recharger la voiture.
Mais c'est extraordinaire, donc on voit très bien aussi que cette crise soi-disant écologique est une crise qui est organisée pour contrôler les mouvements de la population. Parce que ces gens qui nous gouvernent trouvent que quand ils vont visiter l'Acropole, il y a trop de touristes. Ce serait quand même mieux si...
Ils étaient entre eux.
Si Philippe et Martine restaient dans leur bouse là-bas tranquille et qu'eux, ils se retrouvent avec leurs copains pour faire un pique-nique
comme
là-bas.
Comme
dans le temps.
Donc, où ils allaient à la Mamounia et c'était quand même beaucoup mieux pour avoir des petits garçons entre eux.
Petits garçons entre eux. Et puis ensuite, on déterminait ministre de la Culture.
Bien évidemment.
Et tout le monde allait à la messe d'enterrement, ce qui était quand même la moindre des choses. Donc, vous vous rendez compte que ces gens qui sont dans l'appareil d'État détestent que les autres soient libres. Parce que...
Parce que les autres, sinon, ils vont se rendre compte de ce qu'ils font.
S'ils commencent à avoir des idées sur la façon dont la France va être gouvernée, mon pauvre ami, on va pas s'en sortir, quoi. Donc, il faut que vous inscriviez ça dans une espèce de temps long et que vous voyez que le but de tous ces gens au gouvernement depuis des années, presque un siècle, c'est toujours de réduire nos libertés. Et ils sont en train d'arriver, non seulement maintenant, ils ont attaqué la richesse, on l'a bien vu avec des systèmes imbéciles d'imposition, mais ils en sont arrivés à un point de contrôle où ils veulent maintenant, ils ont piqué une partie importante de la richesse déjà, mais ils veulent contrôler la façon dont je vais dépenser mon capital. C'est-à-dire, si je décide d'acheter une action de je sais pas quoi, ils vont me dire, non, vous n'avez pas le droit. Je l'ai vu récemment avec un ami ici au bureau, qui avait décidé il y a à peu près un an d'acheter de l'or, ce qui prouve qu'il n'était pas idiot d'ailleurs, parce qu'elle a beaucoup monté depuis. Et quand il a donné l'ordre sur son compte en banque, sur, vous savez, il avait une banque et qu'il avait envoyé une façon de gérer son compte à partir de son ordinateur à lui. Ben, quand il a donné l'ordre d'acheter l'or, l'écran est devenu tout rouge. Et il a fallu que ça passe au conseil d'administration de la banque et au conseil de d'administration de la banque qui contrôlait la banque. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que vous utilisiez votre argent comme vous le voulez. Il avait le droit d'acheter des obligations françaises, qui est une merde incroyable, mais s'il achetait de l'or, ça, il y avait des trucs qui se mettaient à sonner partout. Et c'est pour ça qu'on va faire cette, si j'ose dire, cette...
Université de l'épargne.
Université de l'épargne, parce qu'il faut que vous repreniez le contrôle de votre épargne et de la façon dont vous allez dépenser votre argent. Il n'y a pas de raison qu'on vous force à vous dire, ben non, vous n'allez pas boire assez peu de vin, mais il sera très bon, vous devez en boire un litre et demi de cette saloperie, parce que, tu vois ce que je veux dire, c'est, je fais ce que je veux de mon fric, je l'ai gagné, il est à moi, et ça ne vous regarde pas la façon dont je le dépense. Et vous n'avez pas le droit d'aller vérifier la façon dont je le dépense. Et donc je vois très bien arriver ça, ce qui nous arrive, c'est grosso modo, on va se retrouver comme des moutons, obligé de, comme tu le dis, t'achètes ta côte de bœuf et en disant, ah non, vous avez déjà eu 3 côtes de bœuf ce mois-ci, c'est beaucoup trop. Ben maintenant, vous allez bouffer un ragoût de sauterelle qu'on a, qui est très bien aujourd'hui. Mais non, je ne veux pas bouffer un ragoût de sauterelle, je veux bouffer ma côte de bœuf et puis ça ne regarde pas.
Ah, sinon, vous avez un ragoût de lentilles.
Oui, ben encore, ça, c'est un peu meilleur. Et donc, quand tu regardes réfléchir sur le problème des libertés, tu te rends compte que toujours l'ennemi de la liberté, c'est l'État. Donc, la seule solution, c'est celle, encore une fois, qu'ont trouvé les Suisses, si j'ose dire, c'est d'avoir pas d'État.
Alors, il y a pour moi aussi d'autres choses qui se profilent. On a des idées, désormais dans le gouvernement, d'avoir des atteintes, des nouvelles dispositions qui seraient des atteintes... aux appels à la haine sur les réseaux sociaux.
Eh ben voilà.
Et donc là, on est au confluent d'atteintes à plusieurs droits, c'est-à-dire d'abord le droit de sûreté de l'individu. Le droit de sûreté, c'est un peu l'habeas corpus, c'est l'idée que tu ne seras pas mis en prison pour des règles iniques. Donc si on commence à faire des droits subjectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un appel à la haine, qu'est-ce que véritablement...
Et qui détermine que c'est
la haine ? Qui détermine, voilà. C'est-à-dire, je comprends bien ce qu'est une action de voler, de tuer... de cet objectif. Il n'y a pas besoin de discuter. En revanche, le délit qui serait de dire j'ai fait de la peine à quelqu'un sur un réseau social X parce que j'ai porté atteinte à sa sensibilité.
À ce qu'il croit.
Prenons par exemple l'affaire Mila, c'est-à-dire qui dirait quelque chose comme je pense que la religion musulmane ce serait ceci ou cela.
Mais j'ai le droit constitutionnel
dans la liberté d'expression de dire
que la religion musulmane est une saloperie, comme les musulmans ont le droit de dire que la religion catholique est une saloperie, et ils s'en privent pas. Et si quelqu'un passe de la religion musulmane à la religion catholique, il s'arroge le droit de le tuer. Parce que c'est dans le Coran. Donc, encore une fois, ce que je dis, c'est foutez bien la paix, exprimer une opinion, ça n'est pas agresser quelqu'un.
Il est constitutionnel, dans la liberté d'expression, c'est constitutionnalisé, de pouvoir dire que l'on pense que une ou toutes les religions... Avec le potentiel d'opium du peuple qu'elle comporte, puisse être une atteinte aux libertés. Et cela est irréfragnable. Et je pense qu'il est dommageable pour le droit de sûreté, le droit de la liberté d'expression, que désormais il y ait des nouvelles normes qui soient mises sur les réseaux sociaux qui diraient en gros que dès qu'on touche du doigt ces choses-là...
Et on rétablit le crime...
De blasphème.
De blasphème qui a été supprimé par la Convention en 1793, je crois. Et en s'appuyant sur l'histoire du chevalier, je sais plus quoi, qui avait été tué parce qu'il avait refusé, enfin qui avait été exécuté après un procès parce qu'il avait refusé de se découvrir devant une procession. Mais là, on va tout droit, c'est que... Et Voltaire avait écrit des pages tout à fait sympathiques là-dessus, mais Bon, alors si maintenant, mettons que les musulmans se mettent à faire des processions en France, que moi, je refuse de retirer mon chapeau quand je passe, alors ils ont le droit de me tuer ?
Non, mais encore une fois, je pense...
C'est vers ça qu'on va, c'est-à-dire oui. on l'a bien vu depuis 2-3 jours, il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils ont dit « ben non, ça ne m'intéresse pas ». Et donc, c'est absolument extraordinaire, c'est tellement opposé à ce qu'on pense, et on a l'impression que nos gouvernements, qui ont peur de tout, là, ils ont pris comme décision politique de nous empêcher de dire que si je veux, et si je le pense, j'ai le droit de dire que la religion musulmane est une saloperie. Ça ne veut pas dire ce que je dis, mais j'ai le droit de le dire. Et donc, ils sont en train de faire passer des lois pour m'empêcher de le dire. Mais c'est un droit qu'ils ne peuvent pas, m'interdire.
C'est anticonstitutionnel. Et de la même façon, j'aimerais dire autre chose aussi. On a vu la semaine dernière des violences chez les jeunes absolument incroyables.
Absolument incroyable.
Or, on aimerait rappeler quand même que dans la délégation de la violence légitime que l'on fait à l'État, suivant Max Weber, il en reconfère un droit à l'État qui est celui de la sécurité, qui est celui de nous protéger. Or, que constate visiblement, l'État est défaillant aussi en cela. Aujourd'hui, il y a des atteintes à la sécurité directe des professeurs, on l'a vu avec l'affaire Paty. Aujourd'hui, visiblement, des élèves entre eux, ce qui me fait poser la question de, aujourd'hui, l'État, dans sa défaillance, ne remet-il pas en cause, même constitutionnellement, sa propre essence ? Est-ce qu'on ne se retrouve pas devant un État illégitime, puisqu'il n'assure plus la mission qui est la sienne ? Et comme nous, citoyens, nous avons un droit constitutionnel à avoir une sécurité sur le territoire.
Alors, quand ça s'est passé,
cet État n'assure plus mon droit constitutionnel.
Voilà. Et alors, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays où ce genre de choses est arrivé, c'est que, du coup, il y a eu la légitime défense qui se met en route, et il y a des espèces de milices privées qui font régner l'ordre, comme ça s'est passé au Brésil pendant un certain moment.
Mais c'est ce qui nous pend au nez.
C'est ce qui finit par arriver, où on va liquider des gens, enfin, on va rétablir la peine de mort, comme on est en train d'être rétabli par les crapules, pour protéger les braves gens. Mais
donc on va se retrouver avec des sortes de zones de non-droit, et les zones de droit où on se paiera des milices privées,
elles se
créeront toutes seules, et on se fera des rondes, ou j'en sais rien. Mais c'est-à-dire qu'on arrive à un truc absolument incroyable avec une perception de l'État extrêmement forte, qui n'arrive même plus à assurer ce qui était à l'origine la base de la base. Parce que tu allais voir ton seigneur, ton suzerain, à l'époque, c'était pour rentrer dans les forteresses quand tu étais attaqué par les Huns, par Attila, par qui tu veux.
Je sais pas si tu te souviens, il y avait ce film tout à fait admirable qui s'appelait Le Parrain. Alors, ce que les gens savent pas, c'est que la mafia, l'origine de la mafia, ça avait été créé il y a très très longtemps comme une société secrète pour protéger les Siciliens qui étaient catholiques contre les dominants qui étaient les musulmans à l'époque. Donc c'était un truc qui s'est resté secret. Donc le rôle de la mafia, ça a toujours été d'assurer la justice en quelque sorte, ou l'ordre dans la société chrétienne, même quel que soit l'État qui soit au-dessus, donc que ce soit l'État musulman, l'État italien, ils n'en avaient rien à foutre. C'était un drôle de truc, la mafia, du criminel, bien entendu. Et donc, il y a un type qui va voir le parrain, Monsieur Corleone, et qui lui dit que sa fille a été violée, etc. Et le parrain lui dit, oui, mais tu m'as jamais baisé la main, tu n'es jamais venu à mes fêtes, tu n'as pas reconnu mon autorité. Mais comme je suis un brave type, je vais m'occuper de ceux qui ont vérifié. Bon. Et donc c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'on va vers une réémergence de tous les Corléonais qui seront dans un quartier et qui feront... Je te signale que, par exemple, toute la mafia américaine qui est dans le New Jersey, si tu fais tomber ton portefeuille par terre dans les villes où ils vivent, il lui arrive bien à ton portefeuille, il te le ramène à Sisek. C'est-à-dire qu'il faut régner une discipline d'enfer et t'as pas besoin de policiers parce qu'ils sont là. Donc, on va vers une privatisation de la police et on va vers une privatisation de la justice.
on a quand même un problème, c'est que parallèlement à ça, on est le pays qui paye le plus d'impôts.
Ah mais bien sûr.
Donc on se retrouve à payer des impôts incroyables et un État qui fait pas le boulot.
Et t'envoies tes enfants dans des écoles privées.
Dans des écoles privées et en plus tu vas devoir te payer en plus une sécurité privée si tu veux pas.
Voilà. Et une justice privée.
Donc si tu veux, il y a peut-être un moment où on va se dire pourquoi je paye mes impôts au fait.
Ben voilà.
Et là, le jour de gloire est arrivé.
Ben voilà, ben c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que tu as une telle déliquescence de l'État que tu te dis, ben, je préfère payer M. Corleone que payer...
Quand l'inspecteur des impôts vient, ou l'huissier viendra pour prendre les meubles, sera devant la porte en disant, tu veux quoi ?
Il fera savoir à l'huissier que ce n'est pas le moment de passer, qu'il n'y a personne à la maison.
Oui, voilà.
C'est un peu ce qui se passe en Sicile. Mais ça donne des sociétés complètement dysfonctionnelles.
Oui, bien sûr.
Parce que il y a pas d'état de droit, il y a pas un droit si tu veux.
Mais c'est le problème quand il y a une atteinte aux libertés. Ben voilà, quand tu commences à avoir une atteinte aux libertés,
tu abandonnes ta liberté au profit de Monsieur Corleone, puisque avant y abandonner au profit de l'État, ça marche pas du tout. Donc tu te dis je vais aller vers Monsieur Corleone. Donc il faut bien se rendre compte que le refus de l'État de faire ses fonctions régaliennes. Amène à une détérioration extraordinaire des libertés. D'abord parce que les gens n'osent plus sortir dans la rue, et après parce qu'ils vont aller voir M. Corleone. Mm. C'est pas possible autrement, quoi. On l'a vu 20 fois dans l'histoire. Et ça amène à la déliquescence de l'État. C'est un peu ce qui est arrivé dans cette société. Je sais plus où c'était. Tu sais où ils ont mis 25 000 types en tôle, là, dans je ne sais plus quel pays d'Amérique latine.
Ah oui, ou 7 000, je sais pas quoi. Où il y a du Bitcoin, Salvador.
Salvador, c'est ça. Dans le Salvador, ils ont fait ça. Bon, il y a un type qui a dit, bon ben maintenant, tous ces gars, tous les petits Corleonais, on va les mettre, et paf, et il a rétabli l'État de ce fait. Et il n'y a plus un crime depuis.
Il a un peu fait ça aux Philippines, le type.
Oui, il y a eu ça aux Philippines pendant 2-3 ans, c'est-à-dire que...
Et il y a eu beaucoup moins de drogue, du coup.
Il y a eu beaucoup moins de drogue.
On a trouvé pas mal de grands dealers...
Qui avaient eu des accidents.
Qui avaient coulé. La police n'a pas exclu la thèse du suicide.
Avec
deux balles dans le dos et les pieds dans le ciment.
Donc, il y a un peu ça aussi. Donc, quelque part... Allez, je vais dire une bêtise, une fois de plus, je vais me faire mal voir, là, mais... C'est un peu ce que les Corses ont réussi à faire. C'est-à-dire qu'ils ont... une telle pesanteur sociale de « vous nous emmerdez pas en tant que Corse qu'en étant Corse » que, par exemple, ils ont eu assez peu d'incidents avec les travailleurs immigrés, etc. Il y a une espèce de...
Il y a assez peu d'incidents burkini sur les plages corses aussi. je ne sais pas, je remarque. Toujours,
donc, voilà. Donc, il y a ça aussi, c'est... Et les Corses, ils ont dit « bon, ben... » Petit, c'est comme ça que ça marche ici. Et ils
on boit compris. Doucement.
On boit doucement. et ils ont l'air d'avoir compris. Donc, il y a aussi une... C'est ce que me disait, je crois, un ami italien. Il était en Italie. Il y a une femme qui a commencé à être embêtée par des types qui traînaient là. Bon, ben, il y a 4 ou 5 mecs italiens qui sont arrivés à toute allure et qui ont commencé à leur casser la gueule.
Moi, c'est arrivé à ma fille, ça. Elle m'a dit, je me suis jamais sentie aussi en sécurité qu'à Milan, parce que je sais que dès qu'un type me parle mal ou me regarde un petit peu de travers et tout ça, il suffit que je parle un peu fort, il y a 4 mecs qui arrivent en disant, mademoiselle, vous avez un problème. Voilà. Je peux dire qu'à Paris, tu peux toujours essayer de lever la voix dans le métro, t'as personne qui vient t'aider. Hein.
Voilà. Donc, il y a aussi une espèce de responsabilité citoyenne de pas laisser à des éléments qu'on n'aime pas la possibilité de... détruire l'ordre public. Donc, les Français sont peut-être trop habitués à voir les policiers qui faisaient leur métier convenablement. Il serait peut-être bien qu'ils se reprennent une certaine... Mais je vais dire encore une bêtise. Peut-être les hommes français devraient recommencer à être virils.
Oui, mais tu sais, on leur explique toute la journée qu'il faut qu'ils se déconstruisent, qu'il faut qu'ils soient en ligne avec leur féminité.
Ils sont bien. En ce moment, ils sont très bien en ligne avec leur féminité, ils sont impeccables.
Là, je voyais un TikTok de 2 Américains qui disaient « ma femme m'a dit qu'il fallait que je sois en ligne avec ma féminité, donc j'ai explosé la voiture et je ne vais pas parler pendant toute la journée en faisant la gueule. » Pour aucune raison.
Elle savait pas pourquoi. C'est très bien ça. Voilà, c'est très bien. Je fais la gueule, mais je sais pas pourquoi. Voilà.
Voilà, parce que si je dois te l'expliquer, c'est que t'as pas compris.
C'est pas fou ça. Donc tu vois, mais C'est-à-dire qu'à force, c'était La mort du soldat, ce bouquin admirable de Paoli, là, à force de vouloir enlever au type le rôle de défenseur, eh ben, on se retrouve agressé, mais il n'y a personne qui vient à ton secours quand tu le dis l'aide à l'aide. Quoi, non. Donc, peut-être faudrait-il réapprendre aux hommes. Tiens, je ne saurais trop conseiller à tous les hommes d'aller prendre des cours de karaté, du jiu-jitsu, parce que vous allez peut-être en avoir besoin pour défendre vos petites femmes.
Bon, bah écoute, on n'a qu'à faire comme ça. Bon, il suffit, comme notre cher Léonard, de porter des trucs de lourd. Hein, quand tu commences à avoir, avoir une cage thoracique et de grands bras, ça fait déjà un peu plus l'affaire.
C'est ce que disait ce brave Audiard. Dans un bar, quand il y a un type de 120 kilos qui parle fort, les types de 60 kilos, ils écoutent.
Ils écoutent.
Donc, mais oui. Il faut que les hommes reprennent l'habitude...
De faire 120 kilos.
Non, pas de faire 120 kilos, mais de se faire écouter.
Oui, voilà. Écoutez, donc j'espère qu'on vous aura intéressé avec ce petit sujet sur l'atteinte à nos libertés. On a fait un petit tour de ce qui nous semblait important. Donc on vous tiendra informé pour ce qui arrive sur notre université de l'épargne. Ça avance. On attend les meubles, on fait la plateforme. Voilà, ça arrive. Et puis voilà, on met des pouces, on nous écoute, on en parle à ses amis.
Et on est à 335 000, c'est incroyable ça. 335 ou 331
sur l'épargne.
Non, mais on est à 335 000
d'abonnés. Oui, bah oui.
Allez, 400 000, allez.
Il y a une progression. On est à peu près à presque 7 millions de vues par mois en glissant.
C'est trop bien.
Ouais. Il y a 7 millions de vues en glissant. À peu près pareil que TV Liberté. Mais on fonctionne avec beaucoup moins de moyens.
Oui, mais le talent.
Oui, le talent est énorme. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.